peut-être l'occasion de réfléchir à l'argent, à nos biens, à l'usage que nous en faisons. Et pour cela, je vous invite à la lecture d'un enseignement de Jésus rapporté par Luc dans son évangile. C'est au chapitre 16 et nous lirons les 12 premiers versets. Et vous allez voir, c'est un enseignement qui est très troublant, pour ne pas dire déstabilisant. Et Jésus introduit, c'est un grand maître, hein, Jésus, en termes de pédagogie assez extraordinaire, il introduit cet enseignement par une de ces petites histoires d'apparence toute simple, appelée parabole. Alors ce passage est connu sous le nom de la parabole du gérant malhonnête, mais avisé, ou encore du gérant habile. Donc nous allons lire Luc, chapitre 16, et les versets 1 à 12. Jésus dit encore à ses disciples, « Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole ? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier ? J'en aurai honte. » Je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Et là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, » lui répondit celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, » lui dit le gérant. « Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20. » hectolitres. Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 500 sacs de blé. « Prends ta reconnaissance de dette, » reprend le gérant, « et inscris-en 400. » Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, dit Jésus, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné ? Alors, arrêtons-nous un instant sur cette parabole que Jésus adresse à ses disciples. C'est bien précisé, dès le début, Jésus parle à ses disciples. On a donc un grand propriétaire, un homme riche et puissant, qui découvre la malhonnêteté de celui à qui il a fait confiance, à qui il avait confié la gestion de ses biens, des domaines agricoles, avec leur production, puisqu'il est question d'huile d'olive et de blé dans cette histoire. Et ainsi, cet intendant, ce gérant, gaspille ou dilapide les biens de son maître. C'est le mot en grec qui est utilisé aussi au chapitre précédent par Luc, lorsqu'il est question du fils prodigue, de ce jeune qui gaspille, qui dilapide la part d'héritage qu'il avait réclamé. Alors, on ne sait pas très bien comment ce gaspillage est fait, mais en tous les cas, il est avéré. Il n'y a pas de contestation qui vienne affaiblir cette dénonciation, puisqu'il y a une dénonciation auprès du maître, et l'intéressé lui-même ne nie pas. Toutefois, avant le licenciement définitif, on voit que le propriétaire réclame des comptes. Et c'est alors que commence la réflexion et la décision de l'intendant. Diminuer les dettes des débiteurs de son maître pour s'en faire des amis. Bref, se faire des amis au détriment des justes intérêts du maître, et ceci dans l'espoir de bénéficier de leur hospitalité. Et voilà la conclusion de Jésus qui accompagne cette première partie de son enseignement. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, pour ceux qui vivent pour ce monde, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Ainsi, ce maître, et nous savons qu'il est la représentation de Dieu dans les paraboles de Jésus, ainsi ce maître admire les magouilles de son gérant. Un gérant qui, manifestement, ne se contentait pas de dilapider les biens qui lui étaient confiés, mais il falsifiait joyeusement les documents comptables. Surprise donc, le maître, Dieu, admire l'intelligence de la manœuvre dont il est la première victime. Mais ça ne signifie pas qu'il approuve. Et c'est d'ailleurs avec ironie que Jésus souligne combien les gens qui vivent pour ce monde sont plus avisés en affaires que ceux qui vivent pour le monde à venir, pour le royaume de Dieu. Bref, ils sont nettement plus avisés que les enfants de lumière. Si on devait raconter cette parabole dans notre contexte actuel, on pourrait évoquer, par exemple, des responsables politiques, ministres, élus, et là je vous laisse plonger dans notre actualité pour trouver des noms. Bref, des gens qui sont gestionnaires, ministres, ça veut dire serviteurs, et qui utilisent l'argent du contribuable, mais pour servir leurs propres intérêts. Et puis on pourrait évoquer aussi des cadeaux, puis toutes sortes de faveurs que l'on accorde dans le cadre du travail. Peut-être vous avez vu ça au sein de votre entreprise, dans l'espoir d'un retour d'ascenseur. J'utilise mon influence pour la nomination de ton fils à un poste intéressant, et ceci dans l'espoir que tu appuies ma promotion à la prochaine commission des carrières. En fait, en y réfléchissant, que ce soit dans le contexte de l'époque de Jésus, ou 2000 ans plus tard, dans notre contexte, on voit combien sont nombreuses les occasions de se servir de ces responsabilités, des responsabilités qui nous ont été confiées, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, pour se servir soi-même. Et oui, la corruption, les magouilles sont effectivement bien présentes dans le cœur de celui, de celle, qui vit pour ce monde, comme dit Jésus. Et ce n'est pas le cas des chrétiens. Les hommes et les femmes qui ont fait le choix de vivre dans la droiture, dans la lumière, dans sa lumière, n'ont pas cette ingéniosité dans la malhonnêteté. Et c'est le premier niveau là, de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Donc, pour le moment, tout va bien, n'est-ce pas? On se sent assez peu concerné par cette parabole. Enfin, en tous les cas, je l'espère, pour chacun d'entre nous. Mais sans transition, Jésus interpelle ses disciples. Et là, on peut se demander quel rapport il y a entre cet intendant malhonnête et les enfants de la lumière, nous les chrétiens. Parce que Jésus continue et dit « Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans des demeures éternelles. » Mais est-ce que Jésus estimerait que ses disciples aussi gère des richesses entachées d'injustice, même si, effectivement, ils sont nettement moins habiles en affaires que ceux qui ne sont pas ses disciples? Et si le riche propriétaire de la parabole représente Dieu, est-ce que ce gérant malhonnête représenterait le disciple de Christ, nous? Alors là, on commence à tousser. Enfin, moi, en tous les cas, ça commence à me faire tousser. Parce qu'on se dit en soi-même, c'est pas moi, c'est pas possible. Moi, je suis chrétien et à cause du Seigneur, je veille à être honnête en toute chose. Je travaille honnêtement pour obtenir l'argent nécessaire à ma vie, à la vie de ma famille, Et puis, même peut-être plus, je paie tout ce que je dois, je refuse la corruption. Mais pourtant, réfléchissons. Est-ce que nous disposons de richesses entachées d'injustice? Et là, si on creuse un peu, il faut bien avouer que toutes nos richesses, tout ce que nous possédons, est entaché d'injustice. Rien de ce que nous avons ou même produisons avec nos petites mains n'échappe à la souillure du péché, car nous sommes pécheurs, même si nous sommes en cours de sanctification, et parce que nous vivons dans un monde déchu. Alors je me suis amusée à prendre comme exemple ce téléphone. Je vous promets, je l'ai acquis d'une façon parfaitement honnête. Je vous promets, je paie consciencieusement mon abonnement à un fournisseur d'accès Internet. Et pourtant, derrière ce simple téléphone, il y a les conditions mortelles du travail des enfants dans les mines de cobalt de la République démocratique du Congo, par exemple, sans parler des guerres qui sont attachées à cette exploitation de cobalt pour s'approprier le trafic. Et là, je vous renvoie à un certain nombre de rapports, et ils sont réguliers, d'Amnesty International. Le cobalt est en effet indispensable à la fabrication de toutes les batteries de nos ordinateurs et autres téléphones portables. Et puis, derrière ce téléphone, il y a aussi des personnes qui travaillent je ne sais pas où dans le monde pour un salaire dérisoire, avec écouteurs et micros, là, rivés au crâne, de façon à assurer de façon continue le service client. Et puis, dans quelques temps, ce téléphone, ce sera un déchet de plastique, déchet de métaux lourds, et tout ça, ça ira empoisonner l'environnement, et puis ensuite toute la chaîne alimentaire. Et si on réfléchit à tous nos biens, à toutes nos richesses, bien on se rend compte qu'il y a ce même constat. Nos vêtements, notre nourriture, comment est produite notre alimentation, etc. Et c'est assez terrible. C'est assez terrible. Parce qu'effectivement, nos richesses, nos biens, sont bel et bien entachés d'injustice. Nous ne le voyons pas. Nous n'en sommes pas conscients, ou si peu. Mais le Dieu trois fois saint le voit. Rien ne lui échappe. Et lui ne peut tolérer le moindre mal. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que le Seigneur exigeait pour son culte, et on voit ça dans la loi donnée à Moïse, il exigeait un autel fait de terre ou de pierre brute. On a ça dans Exode, chapitre 20, les versets 24-25. Vous construirez pour moi un autel en pierre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit, votre gros bétail, en tout lieu où je rappellerai mon souvenir et je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, ne le bâtissez pas en pierre taillée, car en taillant les pierres ou ciseaux, vous les profaneriez. Alors oui, nous devons rechercher la justice et la droiture dans chacun de nos actes, dans chacune de nos décisions, et en particulier dans la gestion de nos biens. Oui, on doit s'intéresser à la façon dont sont produits ces mille et une choses que nous achetons. Et puis nous devons aussi en tenir compte. Il y a une dimension éthique à attacher à ce que nous achetons, à la façon dont nous gérons nos affaires, et nous devons penser aussi à ce que vont devenir tout ce que nous achetons. Il y a toute une dimension éthique que nous ne devons pas oublier parce que nous sommes enfants de la lumière, parce que nous sommes de Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas oublier que dans cet état de « déjà sauvé par Jésus-Christ », mais pas encore dans le royaume de Dieu, nos richesses, qui sont regardées comme justes par le monde, sont au fond entachées d'injustice. Nous ne devons pas non plus oublier que lorsque nous disons que Jésus est mort à notre place, à cause de notre péché, ce péché correspond bien à nos manquements personnels, aux 10 commandements, mais aussi au péché de notre société, parce que nous en sommes solidaires, parce que nous en sommes complices, qu'on le veuille ou non. Nous ne devons pas oublier la dimension collective de notre péché. C'est vrai que nous sommes dans une société très individualiste et on a toujours tendance à dire « je » ou « Seigneur, je, tu pour moi », etc. Mais nous oublions cette dimension collective. Notre péché, c'est notre péché personnel, mais c'est aussi la dimension collective de notre péché dans notre société. Et c'est de cela que Jésus nous sauve quand au jour du jugement, notre Créateur va nous demander des comptes, comme il a demandé des comptes à son mauvais intendant, il va aussi nous demander des comptes. Et c'est là que l'on sonde combien c'est insensé de placer notre confiance dans nos œuvres, dans ce que nous faisons, en vue de notre salut. Combien est vertigineuse la grâce de Dieu qui nous sauve par la foi en Jésus-Christ et non pas par nos œuvres entachées forcément par le péché. Et en attendant le royaume, voici l'ordre de Jésus. Vous avez des richesses entachées d'injustice. C'est un fait. Alors, utilisez-les pour faire du bien à vos frères et sœurs en Christ. Et il s'agit bien des frères et sœurs en Christ, puisque ce sont ces personnes auxquelles on va faire du bien grâce à nos richesses entachées d'injustice, même si on va veiller à ce qu'elles soient le moins entachées possible. C'est bien c'est des frères et sœurs, des sœurs en Christ, parce qu'ils vont nous accueillir à la fin des temps dans les demeures éternelles. Donc ce sont nos frères et sœurs en Christ dès aujourd'hui, qui le sont déjà dès aujourd'hui, mais ça va peut-être être ceux qui vont devenir nos frères et sœurs en Christ, parce que nous aurons bien utilisé nos richesses entachées d'injustice pour l'avancement du royaume de Dieu. Et peut-être qu'en utilisant à bon escient, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se tourner vers le Seigneur. Mais voilà, l'enseignement de Jésus n'est pas fini. L'enseignement de Jésus se déploie comme une fusée à 3 étages. Premier étage, bien gérer ses biens, les biens que nous avons, avec droiture et amour, et dans un esprit de justice. Deuxième étage, prendre conscience que dans ce monde déchu, effectivement, nos richesses sont entachées d'injustice. Et le Seigneur nous demande de les utiliser pour faire du bien. Mais voilà, la fusée a un troisième étage. Et ce troisième étage, on l'a à partir du verset 10. Et si nous le lisons un peu avec attention, ben cet étage-là, on le prend en plein dans l'estomac. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Qu'est-ce qui fait Jésus? Il met en parallèle la gestion actuelle des petites choses et la gestion future de choses importantes. Ensuite, il met en parallèle la gestion actuelle des richesses injustes et la gestion future de richesses, celle-ci, véritable. Et enfin, il met en parallèle la gestion présente du bien d'autrui avec la gestion future de notre bien propre. Si je réorganise ces 3 parallélismes, ça veut dire que dans ma vie actuelle, et ceci malgré ma recherche de droiture et patati et patata, j'ai à gérer des richesses injustes qui sont de petites choses et qui ne m'appartiennent pas. Mais qu'au jour du jugement dernier, si Dieu me trouve fidèle dans ma gestion des richesses injustes petites qui ne m'appartiennent pas, il va me confier la gestion de véritables richesses justes et qui, elles, seront mon bien propre. Ça veut dire que Jésus, il nous fait un renversement complet de notre façon de voir nos richesses Ce qu'on appelle nôtre aujourd'hui, ça ne nous appartient pas. C'est Dieu, le véritable propriétaire. Nous, nous ne sommes que ses intendants. Ces intendants, qu'on essaie quand même d'être à peu près honnête, mais nous ne sommes que ses intendants parce que tout lui appartient. Tout, absolument tout lui appartient. Et nous, nous avons à gérer le plus fidèlement possible nos richesses actuelles, qui sont les siennes, et des richesses actuelles qui sont entachées d'injustice. Et Dieu nous dira fidèles si nous utilisons ces mauvaises richesses pour l'avancement de son royaume, pour faire du bien en son nom. Enfin, nos vraies richesses, justes et importantes, celles dont nous sommes réellement propriétaires, ce sont celles de notre héritage en Christ. Oui, avec cet enseignement, Jésus effectue un renversement, mais vraiment complet, de notre façon habituelle de comprendre l'argent, de comprendre nos biens, de comprendre tout ce qui fait notre richesse, notre patrimoine actuel. Parce que ce que nous appelons aujourd'hui notre propriété, en vérité, c'est celle de Dieu. Et ce que nous appelons le royaume de Dieu, c'est en fait notre royaume, notre propriété sûre et certaine. Alors, pour conclure, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons de multiples biens à gérer. Alors, on a parlé bien sûr de biens matériels, là, j'ai surtout pris des exemples de biens matériels, mais nous avons aussi des biens immatériels à gérer, à commencer par notre vie, par notre temps, par nos relations. Tout ça, ce sont des richesses. Nous avons donc bien sûr les biens matériels, et tout ça appartient à Dieu. Ces biens sont concernés par la purification obtenue grâce au sacrifice de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et notre gestion de chaque jour doit se réaliser dans la lumière du Saint-Esprit. Mais bientôt, nous entrerons en possession de notre héritage, un héritage constitué de richesses importantes, exemptes de toute souillure, et dont nous sommes les légitimes propriétaires. Et là, je voudrais juste rappeler cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, ça se trouve au chapitre 8, versets 17-18. « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Et j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Et c'est vrai, je pense que si on parlait, échangeait les uns avec les autres, on pourrait énumérer un certain nombre de souffrances dans notre vie présente. Mais Paul nous dit, attendez les amis, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de la vie présente et ce qui nous attend. Amen. Je vous invite à prendre juste quelques courts instants de silence pour réfléchir à tout ce que le Seigneur, dans son immense bonté, dans sa fidélité, dans sa grâce, et on l'a chanté en première partie, nous a confié comme richesses, richesses matérielles, richesses immatérielles, qui sont souvent bien plus précieuses que les richesses matérielles. Voilà, et de lui demander de nous aider vraiment à nous diriger pour bien les gérer fidèlement, selon sa volonté. Amen.